Passe à un tout autre registre et en même temps, je pense que vous avez pu voir les points communs qu'il y avait entre les deux films. Il me semble qu'il y a même la même réplique, le meilleur ami d'une fille et sa mère. Il me semble que dans Psycho, le meilleur ami d'un fils et sa mère. Donc voilà, on est dans le même sujet. L'autre point commun, c'est que il y a... Enfin, je vais prendre des précautions, mais il me semble qu'il y a très peu de films de l'époque qui ont filmé le tennis, et très peu de cinéastes de l'époque qui ont filmé le milieu du tennis. Et je retiendrai de... Voilà, il y a deux films qui filment le tennis à la même année, 51, L'Inconnu du Nord Express d'Alfred Hitchcock et Je sais tes matchs d'Ida Lupino. Là, évidemment, on va forcément parler de la trajectoire d'Ida Lupino, parce qu'elle n'a pas seulement, elle a pas seulement été la seule cinéaste à filmer le tennis, elle a été aussi la seule cinéaste femme de l'après-guerre à Hollywood, et ce pendant quand même longtemps. Donc elle aussi est une anomalie, une heureuse anomalie qui a donc commencé, et on va voir comment, à quel point le film charrie son expérience d'Hollywood, son expérience comme actrice, et aussi le fait que très tôt elle a été vouée à entrer dans le show business et à être actrice, puisqu'elle est issue d'une dynastie d'artistes anglais. Elle raconte, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai été préparée à une carrière dans le show business. À 10 ans, elle connaît tous les rôles féminins du répertoire de Shakespeare. À 14 ans, elle commence à jouer dans des petites productions. Elle est repérée par Alan Dwan, un cinéaste qui l'a fait jouer dans un film. C'est là qu'un dirigeant de la Paramount repère Ida Lupino et la fait venir à Hollywood. Donc elle commence sa carrière à l'âge de 16 ans à Hollywood. Et donc là, ça va être vraiment Ida Lupino et c'est l'histoire de beaucoup d'actrices de l'époque. C'est-à-dire qu'elle va entrer dans la fabrique de stars comme toute fabrique, comme toute usine, on essaye de produire des stars toujours sur un même modèle. Le modèle qui prime dans les années 30, c'est la blonde platine sexuelle, la femme fatale. Et on va essayer de faire d'Ida Lupino une sorte de Jean Harlow. Jean Harlow, qui est un peu l'ancêtre de Marilyn Monroe, c'est une actrice qui jouait dans. Voilà, qui était vraiment une sorte de totem comme ça, une sorte de sexualité comme ça, extrêmement agressive au sein des films, et qui était. La blonde platine est toujours liée à la sexualité à Hollywood, au vice aussi, à quelque chose de très. Ce qu'on va retrouver ensuite chez Hitchcock. C'est un peu la figure qui met à mal le mariage, si ce n'est la société dans son entier. Et donc voilà, on essaye de faire correspondre très souvent à Hollywood une actrice à une autre. Et Jean Harlow est morte à l'âge de 27 ans, tragiquement d'une maladie non guérie, parce que sa mère n'a pas voulu prendre au sérieux ce qu'elle avait. Donc on est un peu aussi dans le. Thématique du film, donc Jean Harlow et Ida Lupino en 1934. Donc on voit comment Hollywood transforme physiquement les femmes, épilation des sourcils, coloration des cheveux. Ça allait évidemment jusqu'à, pas chez Ida Lupino, mais jusqu'à la chirurgie esthétique. Marilyn Monroe, c'était son nez, sa mâchoire. Bref, on transforme les femmes pour en faire des stars. Hein. C'est vraiment cette dimension d'usine, mais en plus de. On vous prend pour une autre. Donc on la prend pour Jean Harlow. Ensuite, elle décide de mettre un terme, de ne pas renouveler son contrat à la Paramount va travailler pour la Warner. Et là, on veut faire d'elle une Bette Davis, qui est un peu la star Warner, qui elle aussi a connu le sort réservé à Lupino, c'est-à-dire qu'on a essayé de faire d'elle une blonde platine et elle a résisté au studio. Ida Lupino aussi va résister puisque elle va réussir. Les acteurs étaient sous contrat pendant 7 ans avec les grands studios. C'était une durée comme ça incompressible. Vous deviez rester 7 ans à la merci des studios qui faisaient ce qu'ils voulaient de vous. C'est-à-dire que vous n'aviez pas vraiment le droit de regard sur les films, sur les scénarios, et vous tourniez vraiment les films à la chaîne. Et donc en 1936, elle va avoir un procès avec la Warner pour rupture de contrat, parce que c'est très grave de rompre son contrat avec un studio. Et Jack Warner, ah non, pardon, excusez-moi, ça c'est Bette Davis. En fait, Bette Davis, d'un côté, va mettre fin à ce système du contrat de 7 ans et donc va avoir un procès avec la Warner. Je m'en mêle dans mes notes. Donc, elle contribue déjà à mettre fin à cet esclavagisme, hein, parce que c'est comme ça que les actrices décrivent, et les acteurs aussi, certains, décrivent le système des studios. Et Lupino, elle va réussir à n'avoir qu'un contrat d'un an avec la Warner. Elle va réussir à réduire la durée de 7 ans à un an, ce qui est absolument inédit dans l'histoire des grands studios hollywoodiens. Il y a comme ça plusieurs acteurs qui vont réussir à inverser le rapport de force avec les grands studios, ce qui va progressivement mettre à mal tout le système. Et très vite, très tôt, chez Lupino, se dessine, en tout cas quand on s'intéresse à sa biographie, on sent l'insatisfaction, mais pas l'insatisfaction, pas seulement l'insatisfaction pour les rôles qu'on lui confie. Elle fait son chemin, elle arrive à décrocher des rôles de plus en plus importants, de plus en plus sérieux, elle arrive à se libérer de la figure de la blonde platine. Mais il y a une autre insatisfaction qui pointe son nez, c'est celle de. En fait, elle ne veut pas être actrice, elle ne veut pas être seulement actrice, elle va l'être tout au long de sa vie, mais il y avait un désir chez elle de produire et de réaliser. Et donc elle contrôle d'abord son image, et puis ensuite elle va contrôler tout simplement sa carrière. Alors évidemment, ça ne se passe pas, puisqu'il n'y a absolument pas de femmes qui réalisent de films à Hollywood. Ça va se passer en plusieurs étapes. La première, c'est en 1945, elle déclarait: Je me vois bien dans quelques années réaliser ou produire des films, peut-être même les deux. Je me vois découvrir de nouveaux talents. J'aime le talent, le regarder, le soutenir. Je suis authentiquement plus intéressée par le talent des autres que par le mien propre. Donc, elle est tiraillée, en tout cas, elle est à un moment de sa vie, dans les années 40, à la fin des années 40, où elle est partagée entre, d'un côté, le contrôle très fort des grands studios sur elle, sur ce qu'elle raconte, et en même temps un désir de création, mais qui doit trouver, c'est-à-dire qu'elle doit tout inventer, elle doit trouver le moyen de réaliser des films, et personne ne lui a ouvert la voie en tant que femme. Donc ça va passer évidemment par la production, c'est-à-dire qu'elle va créer avec son mari Collier Young la société Emerald Production, qui s'appelle aussi The Filmmakers. C'est un peu à cheval sur deux noms, j'ai pas réussi à. Je crois qu'elle a deux noms en fait, tout simplement, Emerald Filmmakers. Emerald, c'est le nom de sa mère, Connie Emerald. Et donc, à partir de 49, elle va devenir productrice et réaliser elle-même six films jusqu'en 1953. Après 53, elle va arrêter le cinéma et elle va beaucoup réaliser pour la télévision. Ça, c'est toujours la grande question à Hollywood, c'est qu'on ne révolutionne pas les représentations sans contrôler les moyens de production. Comme Cassavetes avec le cinéma indépendant, et d'ailleurs Ida Lupino est à ce titre une des pionnières du cinéma indépendant. Il faut d'abord maîtriser la production et donc fonder sa société de production. Elle et son mari ont en tête de tenir tête justement au système des studios et à ce qu'ils racontent. Et ça passe par plusieurs choses. Déjà, le fait de traiter des sujets de société, en évitant toutefois de faire la morale aux spectateurs, mais c'est très fort si vous avez vu les films de Lupino, si vous les découvrez. Il y a vraiment une dimension sociale qui tranche avec ce qu'on connaît du Hollywood de l'époque. On parle de message movie, hein, on a vraiment tout le temps une impulsion documentaire, même si on est dans la fiction, des problématiques sociales qui sont traitées, qui sont très forte. On parle de viol, de bigamie, d'ascension sociale, de frustration féminine. Elle parle dans son premier film, C'est l'histoire d'une jeune danseuse qui est atteinte de polio et qui doit apprendre, qui doit se rééduquer physiquement. Donc on est sur des thèmes extrêmement concrets. Et c'est d'ailleurs, alors je veux bien le slide numéro 1, ce qu'on voit, c'est le carton de son premier, c'est de Never Film, je sais ça, où on voit en fait, What you will see in the next 70 minutes could have happened to you. Ça, c'est quelque chose, on pourrait résumer le cinéma de Lupino à cette phrase, c'est-à-dire ce que vous allez voir, ça pourrait vous arriver. Et on est vraiment là, c'est vraiment de l'anti-hollywoodisme, c'est que Hollywood, surtout dans les années 40, pas vraiment dans les années 30, mais surtout dans les années 40, c'est vraiment une sorte d'Olympe comme ça, où avec des stars, des dieux et des déesses à qui il arrive. Alors je généralise évidemment, il y a des exceptions à la règle, mais l'idée c'est que ce qui arrive aux stars ne peut pas vraiment arriver au commun des mortels, ou en tout cas, il y a comme ça, la dimension d'évasion est très très forte dans les années 40. Là, au contraire, avec Lupino, il y a une envie de partir vraiment du spectateur et de profiter de sa société de production pour raconter les histoires qu'elle veut raconter. Et forcément, elle ne s'adosse pas, aussi parce qu'elle n'a pas beaucoup d'argent, elle ne s'adosse pas au star system, mais fait découvrir des nouveaux talents, des acteurs qu'on ne voit jamais dans les grands films hollywoodiens. Et ça, c'est très, ça, c'est lié. C'est-à-dire que avec des corps profanes, vous racontez d'autres histoires. Stylistiquement aussi, elle voulait. Donc voilà, il y a toute cette indépendance financière qui travaille à la fois stylistiquement, à la fois sur le fond, sur les sujets, et à la fois sur les acteurs qu'on choisit. Et j'ai retrouvé un hommage que lui a consacré Martin Scorsese au moment de sa mort, où il écrit: elle voulait faire des photos, faire des films avec de pauvres gens désorientés, parce qu'au fond, c'est ce que nous sommes. Ces héroïnes sont des jeunes femmes dont la sécurité de la classe moyenne a été brisée par des traumatismes. Grossesse non désirée, polio, viol, bigamie, abus parental. Il y a un sens de la douleur, de la panique et de la cruauté qui colore chaque image. C'est un très beau témoignage. Le texte s'appelle Derrière la caméra, une féministe, qui a été publié dans le New York Times. C'était un hommage juste après sa mort. Et donc, forcément, tout ça est lié au fait que, et on retombe un peu sur la question d'Hitchcock sur Psycho, sauf que Hitchcock décide sciemment de faire un film à petit budget. Lupino n'a pas vraiment le choix du petit budget. Et donc, elle était, Scorsese aussi raconte dans son texte comment elle était une pro pour faire des économies en réutilisant les costumes, les décors de d'autres films, en faisant aussi, en ayant recours au placement de produits pour toucher de l'argent. Voilà, on voit déjà que c'est une femme qui fait des films et donc qui se dit: il faut absolument ruser, pirater le système, faire avec moins parce que on vous donnera pas, voilà, parce qu'on n'aura pas, elle n'aura pas des millions pour faire des péplums. C'est The Hitchhiker, voilà. C'est donc un film noir qui est très beau et qui annonce la couleur. C'est-à-dire que ce carton vaut à la fois pour The Hitchhiker que pour les autres films. Et puis, il y a aussi, alors je vous ai parlé de la production, mais comment Ida Lupino se retrouve concrètement derrière la caméra. C'est qu'en fait, sur le premier film qu'elle produit, Not Wanted, le réalisateur tombe malade, il va mourir un ou 2 mois après être tombé malade, et Lupino se retrouve à le remplacer au pied levé derrière la caméra. Donc on peut dire que quand même, c'est une carrière de cinéaste qui commence par un accident, sans doute peut-être aurait-elle fini par réaliser des films, mais cet accident a été quand même très déterminant pour que Lupino ose passer derrière la caméra. Alors, Hard Fast and Beautiful, Je sais tes matchs, est le quatrième film qu'elle produit et qu'elle réalise. Il est inspiré d'un roman qui s'appelle Mother of a Champion, la mère d'une championne, de John Tunis, d'un scénario ensuite scénarisé par Martha Wilkerson. On va voir comment on va rentrer progressivement dans le film. C'est un film, je dois vous l'avouer, où plus je le regardais, plus je trouvais de choses, c'est-à-dire que derrière son apparente simplicité se cachent beaucoup de choix de mise en scène qui sont d'autant plus forts qu'ils sont discrets. Mais c'est très très tenu et il y a plein de choses qu'on découvre à revenir sur le film. Et donc on va regarder le tout début du film et là aussi on va avoir tout un, comme Psycho, un montage voix-image et un travail dès les premières secondes du film. Lupino nous raconte de quoi il parle. Donc premier extrait. Alors ça a l'air de rien, mais il y a beaucoup de choses dans cet extrait. Pour vous montrer du coup comment Lupino, même, parce que c'est important pour le film, comment elle est passée de sorte de simili-Gennaro à cinéaste, et on voit que tout de suite, en plus c'est drôle parce qu'il écrit Woman Making Movie, mais bon, on pourrait mettre au pluriel, on pourrait mettre juste Woman, hein, parce qu'il n'y en a qu'une. Tout de suite, c'est pas le même rapport au corps, la même mise en scène. Et c'est exactement ce que raconte le film, notamment le début. C'est-à-dire qu'on a déjà un montage générationnel entre une fille et une mère, une mère qui est à l'intérieur, une fille qui est à l'extérieur. La liberté de mouvement de la fille, c'est assez rare, il me semble, en tout cas c'est mon sentiment, ce qu'il y a d'assez inédit dans le film. De voir une femme, une actrice, une héroïne bouger autant dans un film et être libre comme ça de ses mouvements. Donc c'est deux générations de femmes qui n'ont peut-être pas eu les mêmes possibilités. Et tout le film sera évidemment le film de la frustration de la mère. Un détail nous explique tout de suite que c'est son histoire. C'est évidemment la voix off. Et c'est là que le ver est dans le fruit, c'est-à-dire que à l'image, la fille est libre de ses mouvements, mais elle est contrôlée et surveillée à distance par la mère qui va maîtriser la voix off pendant une partie du film. À un moment, ça va s'interrompre, on va voir comment, mais ça déjà, ça nous indique quelque chose, ce n'est pas la fille. Il faut s'imaginer la fille qui fait la voix off, ça aurait produit un tout autre film. La fille fait du tennis. La mère confectionne une robe. La robe, vous l'avez remarqué, c'est quelque chose de central dans le film. C'est un fil qui court. Bon, je pouvais vous en parler tout à l'heure, mais on va passer. Alors, je veux bien qu'on passe le slide 4 jusqu'à 7, progressivement. Donc, je vais vous montrer les occurrences de robe, et encore, il n'y a pas tout. Donc, là, pour ça, c'est la première. Confectionne la robe. Progressivement, la robe va finalement formuler le rêve de la mère. Donc là, il y a dissociation, la robe est sur un mannequin, et progressivement, la fille va rentrer dans la robe. Ensuite, il y a la robe, il y a plusieurs robes, hein, la robe qu'elle va porter, qui est gratuite, je sais plus c'est quoi l'histoire, oui, c'est, enfin bon, en gros, c'est un placement publicitaire. Donc elle porte la robe, et ensuite, il y a une autre histoire de robe. Et là, on voit que la mère enlève la robe précisément au moment où la fille se révolte. Donc là, je vous ai fait une sélection de quatre photogrammes, mais en fait, il y en a encore plus. Il y a encore plus d'occurrences de la robe comme métaphore du rêve de la mère, comme aussi symbole de sa superficialité. Et puis ensuite, on a dans l'extrait, donc voilà, ce montage filmaire, intérieur-extérieur, générationnel aussi. Et puis on la rencontre avec Gordon MacKay, et puis ce tournesol qui sépare Gordon MacKay de Florence. Et là, c'est des choix très audacieux de Lupino. Mais tout de suite, là, elle va poser quelque chose qu'elle va faire à l'échelle du film, c'est-à-dire diviser l'écran en deux, très souvent. Et alors évidemment, toute la question aussi, là déjà, ce plan préfigure quelque chose, c'est que finalement, il va falloir la clôture et le tournesol, il va falloir que Florence rejoigne Gordon, et il y a tout un chemin à traverser avant de le rejoindre de l'autre côté. Mais on va voir que ça a aussi une autre signification. On va le voir avec l'extrait suivant, qui est donc le moment où le père et la mère discutent le soir au lit. Et là aussi, la séquence fourmille de détails. Et donc, on va développer un peu cette idée de d'écran divisé en deux. Donc, là, on voit la frustration de la mère qui explose littéralement d'un seul coup. Et c'est très fort et très subtil ce que dit le film à ce moment précis. C'est qu'en fait, déjà, on a une sorte de peinture des classes moyennes américaines qui se sont, juste après la Seconde Guerre mondiale, progressivement installées en marge des grandes villes et dans les banlieues résidentielles. Hein, le développement des banlieues résidentielles, pardon. Vraiment commence, est vraiment un mouvement d'après-guerre, et on voit vraiment que Lupino en fait une photographie. Et qu'est-ce qu'elle nous dit là? Elle nous dit finalement la stagner socialement, c'est ce qui peut arriver de pire aux États-Unis. Bon, pas que, mais aux États-Unis, il n'y a rien de pire que rester dans sa classe sociale, et que finalement gravir les échelons sociaux, c'est quelque chose qui ne doit jamais finir. Sinon, on a l'impression, comme le dit la mère, de pourrir sur place et de rater sa vie. C'est quelque chose de que on n'a pas. C'est un discours qu'on n'a pas l'habitude de critique comme ça sociale, qu'on n'a pas l'habitude de voir à Hollywood. Et puis on sent évidemment le désamour de la femme qui n'aime plus son mari. Et Ida Lupino montre bien avec ce détail du vernis que et la main. Enfin ça c'est très beau, comme on voit bien une cinéaste qui a pas beaucoup d'argent et qui doit faire avec ce qu'elle a pour signifier ce qu'elle des idées. Et donc on a à la fois le vernis qui est le symbole de la superficialité de la mère. Alors évidemment, parenthèse, on peut aussi trouver que Lupino charge un peu trop la mère. Ça c'est tout à fait. Elle lui met beaucoup de choses dessus. Et en même temps, ce qu'elle montre, c'est que la frustration de la mère s'explique, ne naît pas de son fait, son insatisfaction vient du fait que elle a dû remplir une fonction assignée et qu'elle n'a pas eu le choix, et que forcément, le fait de remplir cette fonction de femme au foyer, c'est un peu la question de psycho aussi, hein, la frustration matérielle, sexuelle, et ben, ça crée, voilà, ça crée quelque part des personnages un peu monstrueux, la frustration. Et donc là, c'est une frustration pas que matérielle, mais aussi au niveau des ambitions. Une femme qui n'a pas réalisé ses ambitions finit par les faire, se venger sur sa fille. Et donc, le vernis, c'est la superficialité. Ça me fait aussi cette très belle scène où elle fait mine de tendre la main. En fait, c'est le vernis qui sèche. Et puis, on a les deux lits jumeaux. Alors, moi, de mémoire, je n'ai jamais vu des lits disposés comme ça dans un film, hollywoodien ou autre. Et alors, on retrouve évidemment l'interdiction du code ACE de mettre un homme et une femme dans le même lit. Mais là, Ida Lupino détourne cette interdiction pour mettre les lits dos à dos. Ça montre le désamour, mais ça montre aussi, bah, en fait, le lit, la ligne que dessine le lit, c'est évidemment le filet du match de tennis. Et du coup, tout le film, c'est ce qu'on retrouve avec le tournesol au début, tout le film va opérer un rapport mimétique. La forme va avoir un rapport mimétique par rapport au sujet qui est filmé, qui est le monde du tennis. Donc beaucoup de scènes vont être organisées comme une suite de matchs, notamment entre le père et la mère. Donc c'est le tennis qui dicte sa mise en scène, et ça je trouve que c'est une idée géniale. Et on va voir, là c'est à la fois, on peut dire que ça clignote, c'est très voyant, on va voir qu'elle va le faire à des échelles beaucoup plus subtiles. Et je vous invite à regarder le prochain extrait en regardant le déplacement des corps, notamment de la fille, et vous allez voir que la séquence est littéralement filmée comme un match de tennis. Extrait numéro 3. Donc, la première partie de l'extrait, c'est le moment où on voit Florence jouer au tennis pour la première fois. Alors là, il faut être très. Je pense que vous l'avez enfin, vous l'avez remarqué, c'est-à-dire qu'à chaque fois que, à chaque nouveau match de tennis, l'audience s'agrandit. Et donc là, c'est la première fois, et Lupino insiste, je pense, elle ne choisit pas n'importe quel court de tennis. La vue est dégagée autour du court, et on voit même des arbres, et personne ne regarde, il n'y a pas de spectateur. Et d'ailleurs, elle fait tout un, elle fait un clin d'œil, c'est assez génial comme idée, c'est qu'en fait, la carafe d'eau ressemble évidemment à voilà, une coupe de tennis. Donc la coupe ensuite va être au début, on joue, là c'est le moment, le seul moment sans doute, où Florence joue avec, joue au tennis pour son plaisir, parce qu'elle a envie de jouer, parce qu'elle a envie de gagner. Et donc, c'est pas un détail si personne ne regarde. Et puis, au match d'après, on voit que hop, il y a 4-5 spectateurs. Et donc, progressivement, l'audience, le parterre de regards va progressivement s'augmenter. Et voilà, le ver est dans le fruit. Et ça, c'est d'un strict point de vue de la mise en scène que nous dit Lupino, c'est que. Finalement, le tennis, c'est champ contre champ, un joueur, un deuxième joueur, et que là, il y a une image en trop, une image intruse qui s'insère dans le match, c'est le regard de la mère, puis le regard de l'audience, puis ensuite le regard des spectateurs. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui coupe le champ contre champ, et on va voir que c'est ce que va critiquer Lupino. C'est pas le tennis, c'est évidemment ce parterre de regards de plus en plus scrutateurs, de plus en plus nombreux. Ensuite, on a la scène où on va comprendre évidemment, si on l'avait pas déjà compris, que déjà que la mère, depuis le début, quand elle parle de sa fille, elle parle d'elle. Elle passe très vite de Florence à moi. Et que là, c'est pas tant l'ascension de sa fille qui l'intéresse que la sienne, c'est-à-dire c'est presque un récit d'évasion. Comment je vais faire pour me barrer de la maison et sortir loin de moi et partir loin de mon mari? Et là, on voit qu'il y a un moment de réflexion et il se dit bon bah je vais faire croire que je dois absolument sur ce qui est sans doute vrai surveiller ma fille et donc la suivre. Donc c'est elle qui doit s'évader du foyer et c'est pas voilà une mère qui souhaite juste le meilleur pour sa fille. Et vous voyez comment le corps de Florence passe de l'un à l'autre, comme si c'était une balle. Ça aussi, c'est très. On le voit pas. Enfin, moi, je l'ai pas vu la première fois. Et ça se voit. Et donc, là-bas, les Florence. Et à partir de. Depuis la scène des lits jumeaux, va se jouer un match entre la mère. Et le père, et c'est le moment où le père va progressivement disparaître du décor. En tout cas, il était au premier plan. Là, après cette scène, il va être filmé. Je ne vous ai pas mis les extraits parce que ça allait rallonger un peu trop la conférence, mais vous verrez que progressivement, à partir de cette scène, il va toujours être dans l'arrière-plan. Ça aussi, c'est quelque chose. C'est un fil rouge du film, la passivité du père, et on voit comment Lupino, parce qu'elle est quand même dans une. Donc c'est un film RKO, mais disons qu'elle est quand même. Elle a choisi le roman, elle a choisi le sujet, elle est libre sur son tournage, et on voit comment elle impose quand même une figure paternelle très passive, qui n'est pas du tout commune dans le cinéma hollywoodien de l'époque. C'est-à-dire que c'est quand même les. On va dire les femmes qui mènent la danse, bon, il y a le coach, mais c'est la mère qui est toute puissante et qui tient les rênes du récit. Donc voilà, cette passivité, moi je la trouve assez inédite. Et puis surtout, à partir de là, elle va évidemment remplacer un homme par un autre. Alors on va rentrer progressivement, donc ben, je vais vous passer les slides. Donc on va voir la carafe d'eau qui ressemble à une coupe. Ensuite, on va voir comment. Donc, on est parti de ce match de tennis où autour l'horizon est dégagé, il y a même des arbres. Je pense que voilà, c'est très choisi de la part de Lupino ici. Et puis, progressivement, elle va. Et ça, on le sent comme spectateur, ça va devenir de plus en plus claustro. Et donc, ça va devenir en fait un spectacle, évidemment. Et c'est ce que filme Lupino. On va voir comment. Le film va progressivement devenir très certainement, puisque Lupino a choisi le sujet, puisque on est en droit de se dire que Lupino a fait un autoportrait, hein, et fait aussi une critique acerbe d'Hollywood. Donc voilà, elle insiste beaucoup sur le public tout au long du film. C'est un public de match de tennis, ça pourrait être un public de cinéma. Et bon, le photogramme suivant, c'est la caméra. Donc elle insiste beaucoup sur la caméra de télévision. Donc on a tout, on a le public de salle de cinéma, on a Florence qui, de fait, est une actrice. On peut, je pense, aussi se dire qu'il y a une vraie ressemblance assez troublante entre l'actrice Sally Forrest et Ida Lupino. Donc on a la caméra, on a les acteurs et on a le public. Donc voilà, c'est aussi une métaphore d'Hollywood. On va passer au premier vrai match spectacle, hein, et on va voir ce qui se passe aussi. Là, on passe à un niveau supérieur dans cette idée de critiquer le mélange entre la performance et le business. Donc extrême numéro 4. Donc là aussi, apparente simplicité, mais beaucoup de choses, beaucoup de détails très signifiants et très beaux. D'une part, la voix off de la mère va disparaître au profit du commentateur sportif. C'est-à-dire que le film commence par être le récit de la mère, et là, il va se passer quelque chose d'autre qui est en fait. Une critique en fait du sport qui devient un business, qui devient un spectacle. Et c'est à ce moment que finalement le film passe des mains de la mère aux mains du commentateur sportif. Donc le récit appartient quelque part à la foule, aux médias de masse et plus du tout, n'est plus seulement l'histoire d'une mère et de sa fille, juste avec ce passage. D'une voix à une autre. Bon, là, elle n'est pas off, quoique ensuite il y a la radio, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a la reproductibilité technique qui se glisse dans l'extrait et qui est très très importante ici. On va le voir avec le père. Mais ensuite, on voit, alors je pense que même quand on n'est pas amateur de tennis, on voit que Lupino n'est pas très intéressé par le tennis et les matchs. C'est pas ça. De toute façon, je pense que c'est très compliqué de filmer le tennis au cinéma, peut-être parce que c'est tellement. Un match de tennis à la télévision est déjà tellement puissant qu'au cinéma, on est toujours en dessous. Surtout quand vous avez voilà, vous regardez un match Federer-Nadal, c'est très dur au cinéma de rivaliser avec l'intérêt qu'on peut avoir pour un vrai match. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais là, je pense que on sent que, pas le désintérêt, c'est peut-être un peu fort, mais le fait que Lupino est plus intéressé par le public. Et par la scène que c'est, et par les regards autour, que par le match en lui-même. Et que ce qu'on sent là très fort, c'est le rapport complètement claustro. C'est-à-dire, on pensait que Florence avait sa liberté de mouvement, mais c'est une liberté sous surveillance, sous le regard de la mère, sous le regard du public. Et donc, elle devient une actrice. Et là, on peut se dire, c'est là que ça devient un commentaire de l'industrie hollywoodienne, c'est que le film peut vraiment être vu comme l'adaptation dans le milieu du sport d'un genre et d'un phénomène surtout qui était très répandu à Hollywood et qui existe encore. C'est la mère ou les parents, mais c'est souvent la mère pour les actrices, le père pour les acteurs, mais c'est très souvent dans l'histoire du cinéma hollywoodien et des actrices, la mère qui projette ses ambitions déçues sur sa fille et finit par vivre son rêve à travers sa fille. Judy Garland, c'était ça, Elizabeth Taylor, c'était ça. Il y a beaucoup de. Même, je sais que DiCaprio, il est devenu acteur sous l'impulsion. Enfin, tous les enfants stars, très souvent, c'est des parents qui veulent se venger ou qui veulent devenir. Qui projettent leurs rêves sur leurs enfants. Dès que vous voyez des enfants acteurs, très souvent, c'est qu'il y a des parents derrière un peu zinzin. Et donc, ça a donné lieu à un genre, le Mother Stage Movie. Donc voilà, vraiment le film où la mère dans les coulisses tire les ficelles de la carrière de sa fille. Et donc là, on est vraiment dans ces codes-là, mais adapté avec ce pas de côté qu'on est quand même dans le milieu du tennis. C'est d'autant plus, je pense, fort que Je reviens à la citation du début, d'Ida Lupino, venant d'une dynastie d'acteurs de théâtre, qui dit « Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai été préparée à une carrière dans le show business. » Enfin, il y a toute la deuxième partie de l'extrait, où, alors ça c'est, disons que je pense que Lupino a choisi sciemment le fait de, que le père écoute le match à la radio, parce qu'en fait c'est celui qui ne regarde pas le match, et que Lupino, tout le film nous dit, un peu comme Hitchcock, le regard, quelque part, il y a quelque chose de pervers, de ontologiquement mal dans le fait de regarder. C'est ce que le film nous dit, en tout cas, dans le fait de regarder un spectacle, il y a quelque chose qui est malsain. Et je pense que c'est toute la carrière d'actrice et tout le vécu d'actrice de Lupino, là, qui surgit. Et comme par hasard, le seul qui ne regarde pas, c'est le père, qui est un peu la seule figure véritablement angélique, en tout cas positive, du film. Il écoute la radio, il ne regarde pas. Lupino insiste sur cette idée lorsque le père ferme les yeux. Et c'est là qu'on comprend qu'elle veut bien nous montrer qu'il y a, voilà, que ceux qui regardent, qu'il y a d'un côté ceux qui regardent, et qui regarder, c'est surveiller. C'est un peu ça l'idée. Et donc le père, lui, imagine sa fille et ne la regarde pas. On peut aussi se dire, s'il y a une caméra de télévision qui filme le match, pourquoi le père ne regarde pas le match à la télévision? Donc c'est vraiment un choix de Lupino de montrer le père qui écoute le match à la radio. Mais on voit déjà que le match déborde le simple. Voilà, il se reproduit grâce aux médias de masse. Hein. On est à une époque où les années 50, c'est vraiment le moment où la télévision concurrence et dépasse le cinéma. Le cinéma perd progressivement de son influence jusque dans les années 60. Et les masses médias, voilà, prennent le relais. Et c'est ce que aussi Lupino commente, c'est-à-dire une femme qui est dépossédée de son image. C'est d'abord le cinéma qui a procédé à cette dépossession avec la reproductibilité à l'infini des images de stars, des magazines de cinéma, avec des photos de stars, puis la radio, puis la télévision. Et elle critique ce spectacle comme dépossession de soi, et comme le regard comme nécessairement vampirique, quelque chose qui emprisonne. Et on sent là vraiment, je trouve vraiment toute son expérience. Et on le voit aussi, je vous ai montré tout à l'heure comment Ida Lupino est passée à la moulinette de la fabrique de stars. On lui a épilé les sourcils, on l'a décolorée, tout ça. Et on le voit aussi sur Florence, comment elle change physiquement d'un corps libre à un corps qui va devoir passer dans une robe. Alors, j'ai pas gardé l'extrait, tout le discours où Florence ivre se lâche et parle du prix de la robe. Je vous ai gardé l'extrait juste après. Alors là, il faut savoir qu'on est à. C'est là que le film est très, très, très efficace. On va arriver à 1 heure de film. Il reste 18 minutes. Et c'est 18 minutes durant lesquelles Lupino va démanteler tout ce qu'a mis en place la mère. Et donc tout ce qu'on a senti par la mise en scène va être porté par le discours. D'abord de la fille, ensuite du père. Et là, on va rentrer vraiment dans de la critique sociale, mais qui est filmée frontalement à même les dialogues. Donc on va passer au discours donc extrait numéro 5, celui de la raquette pourrie. Jusqu'ici, on avait presque un montage alterné, en tout cas parallèle, je n'arrive jamais à faire de différence, entre les coulisses et la scène, les matchs de tennis et la mère et le coach qui, en coulisses, tirent les ficelles de l'existence de Florence et de la carrière. Et puis là, c'est le moment où, après la nuit ivre et le discours sur la robe, là, Florence reprend possession du récit. Et fait de sa mère une simple secrétaire. On sent aussi que Lupino précise toujours son idée que la mère ne veut pas, n'en a que faire du sport, en fait, évidemment, et de l'épanouissement de sa fille. Et qu'en fait, là, on est à l'os, c'est-à-dire que se déploie l'origine, le désir consumériste de la mère, c'est-à-dire le désir d'objet, le désir d'argent, le désir d'ascension sociale qui ne sert qu'à une chose, qu'à avoir, qu'à rencontrer des célébrités, qu'à avoir de l'argent, des robes, des trucs, quoi. Et là, Florence, et ça c'est assez, c'est quand même très rare. Je fais attention à jamais à pas dire que c'est unique, mais on pourrait presque le dire. Je fais attention qu'un film comme ça, américain, hollywoodien, prenne en charge une sorte de critique comme ça de la société consumériste, précisément parce que Hollywood participe évidemment de cette société consumériste. Et là, c'est ce que critique Lupino. C'est presque le star system qui est critiqué. Elle critique le fait que, à partir les célébrités qui produisent, voilà, qui suscitent le désir, ensuite, à partir de ce désir, va être créé d'autres désirs. Donc les célébrités se vendent elles-mêmes pour ensuite vendre n'importe quelle camelote. Et ça, c'est toute l'industrie hollywoodienne qui fonctionne évidemment main dans la main avec le capitalisme. Et donc la star va vendre des rouges à lèvres, va vendre des cigarettes, va vendre aussi des mariages heureux, tout ce que le film ne vend pas. Je passerai sur le fait que, évidemment, on est, enfin, que le constat que fait Lupino est aujourd'hui décuplé. Surtout dans cette idée que je trouve très très forte pour un film des années 50, c'est-à-dire qu'en fait, on ne vend pas n'importe quel objet, on vend de la camelote. Ça, c'est très très fort comme idée, c'est-à-dire que Florence aura les meilleures raquettes, mais par contre, elle va vendre et susciter le désir pour des raquettes de merde, j'allais dire, mais bon, désolée, c'est sorti comme ça. Et c'est comme ça qu'elle le dit. Donc ça, c'est très subtil. C'est pas juste les Américains sont avides d'objets, c'est que ces objets en plus sont de moins en moins sont de piètre qualité. Donc voilà. Donc là, c'est le moment où on voit vraiment la rencontre du business et du sport et les noces malheureuses de la performance et du business. Et la performance qui fonctionne avec le business, c'est Hollywood, c'est-à-dire c'est le principe même d'Hollywood, le principe même du cinéma, c'est-à-dire c'est l'art et l'industrie, c'est l'art et le divertissement, c'est toujours les deux à la fois, surtout à Hollywood. Donc là, il y a une attaque en règle du système hollywoodien. Alors on va passer à la fin. Ouais, c'est bon, 40, on va avoir du temps pour les questions. Ça qui est très fort, c'est que c'est là que Lupino est libre, c'est que n'importe quel cinéaste aurait dû raconter l'histoire d'une ascension sociale héroïque victorieuse, et en fait le film passe son temps à filmer une défaite. Il y a un moment où ça, on voit comme ça les matchs gagnés, l'argent qui rentre, les sponsors et tout ça. Mais à travers le regard d'une cinéaste qui nous dit en fait, ce ne sont que des défaites. Et c'est ce qu'on va voir avec la fin du film et ce passage comme ça, où là vraiment, on voit Florence qui transpire après le match, mais on a l'impression qu'elle transpire d'avoir été à ce point regardée, scrutée, d'avoir été en fait un singe bien dressé quelque part, exactement comme les enfants stars à Hollywood. Donc, dernier extrait. Donc là, on voit le passage, donc l'oppression, hein, là c'est pas très subtil, en tout cas c'est très marqué, le fait que Florence, quand elle va jouer, elle est tout le temps soit prise en sandwich entre son coach et sa mère, soit là, avec les journalistes. Il y a comme ça l'idée qu'à partir du moment où elle sort du terrain, hop, elle est oppressée par les corps, par les regards, elle n'a absolument aucune liberté de mouvement. Et puis là, elle passe, tout le film raconte finalement ça, c'est-à-dire le passage de je veux gagner à je dois gagner. Et puis, on voit ce coach qui, là, on est un peu comme dans All About Eve de Mankiewicz, si vous l'avez vu. C'est-à-dire que là, clairement, c'est exactement le même constat que fait Mankiewicz sur le métier de comédienne. Si vous vous souvenez du film, en fait, c'est l'idée d'un cercle éternel, c'est-à-dire une actrice vieillie, elle est remplacée par une plus jeune, plus célèbre. Et c'est le cycle éternel de la célébrité. Où voilà, les objets, les actrices sont jetées comme des mouchoirs et sont remplacées par d'autres. Et là, on a cette idée avec le coach qui en fait va passer à une autre joueuse et ceci à l'infini. C'est-à-dire que son désir pour la carrière de Florence et pour la mère en fait était vide et sans contenu et il peut passer était juste un désir de célébrité et de victoire. Et puis, on a une fin, c'est-à-dire qui est quand même vraiment une fin totalement ouverte, avec voilà, des bouts de journaux qui s'envolent. Donc là, on a toujours, c'est un motif très courant à Hollywood pour dire à quel point la célébrité est quelque chose de tout passe, hein, c'est l'idée que tout passe finalement. Et la mère seule, alors vraiment. J'insiste, mais n'importe qui d'autre dans un système de production conventionnel n'aurait pas pu finir comme ça. C'est-à-dire que dans un film normal, entre guillemets, il y aurait eu la réconciliation évidente entre la mère et la fille, la rédemption de la mère qui retourne dans sa famille, qui soigne son mari, et c'est évident. Et là, on a une fin ouverte, mais à un degré assez fou, pour un film qui, en plus, se veut un message movie. Et toute cette liberté, qui est d'autant plus forte que je la trouve à la fois, elle n'a rien d'un coup de force, elle est discrète, elle est élégante dans le film, toute cette liberté est permise par l'indépendance qu'a réussi à conquérir Lupino en détenant les moyens de production d'un film. Alors on pourra évidemment reprocher au film de punir une femme qui a le malheur de ne pas rester à sa place, mais moi je vois surtout dans ce film l'histoire de la frustration de toute une génération de femmes qui finit par produire des effets délétères sur celle d'après. Et c'est cette liberté qui permet, cette liberté de cinéaste qui permet à Lupino de filmer une victoire publique qui est une défaite intime et qui permet de dire sur les grands écrans cinéma américain que l'argent détruit tout, mais surtout le spectacle détruit tout. Et c'est peut-être ça qui a le de plus fort dans Je sais tes matchs. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Bonjour, merci pour cette présentation. C'est une question que je me suis posée pendant le film et aussi pendant enfin, votre exposé. C'est sur le personnage de Gordon, en fait. À quel point, bon, vous avez parlé du père comme seul personnage angélique.
Oui.
Et Gordon, en fait, je me suis demandé dans quelle mesure il l'enfermait pas aussi. Enfin, il y a une scène où quand il ne veut pas qu'elle parte, enfin, dans quelle mesure est-ce qu'il ne veut pas lui l'enfermer aussi dans une vie familiale. Et pareil, on parlait du fait qu'elle était toujours entourée par le coach, la mère, etc., les journalistes, et lui aussi, en fait, enfin, elle part avec lui. Bon, voilà, c'est.
Oui, mais merci de parler de ce personnage que j'ai mis de côté parce que c'est vrai que je crois qu'il m'a ou alors ou sa trajectoire me paraissait un peu transparente ou voilà je mais vous avez oui vous avez raison je pense qu'en fait le Gordon c'est là où Florence est piégée c'est que soit elle est piégée dans le spectacle soit elle est piégée comme sa mère c'est-à-dire que Gordon c'est ce qu'on comprend c'est voilà c'est où le spectacle et l'argent la célébrité et quelque part elle perd son âme ou elle va reproduire ce qu'a fait sa mère c'est-à-dire le foyer familial enfin c'est ce qu'on comprend c'est ça c'est que ça va être une mère au foyer c'est peut-être là que la fin est doublement violente c'est-à-dire que ni la fille ni la mère s'en sortent et de toute façon cette fin est tellement pessimiste que c'est pas je pense que c'est pas c'est évidemment la suite c'est-à-dire qu'elle arrête de faire du tennis et puis elle va faire de la cuisine pour son mari, quoi. C'est un peu ce que laisse présager le film. Après, il est tellement focalisé sur la mer à la fin qu'on oublie. Oui, rentre à la maison, c'est ça, ouais.
Juste une remarque. J'ai été frappée par le personnage de Florence, donc parce que j'ai trouvé que c'était un clone de Catherine Hepburn, qu'elle joue comme elle, elle est coiffée comme elle, et particulièrement dans un film qui s'appelle Philadelphia Story. Et je me suis dit, c'est incroyable. Est-ce que c'est un choix? Je pense que c'est un choix volontaire parce que Catherine Hepburn était justement une de ces actrices qui sont sorties du joug d'Hollywood et qui, elle, a toujours eu les cachets qu'elle voulait, qui a toujours été très indépendante et qui s'est pas laissée déformer par les producteurs.
Oui, c'est vrai. En plus, il y a ce film de Cukor, Pat and Mike, Mademoiselle Gagne tout, qui ça aurait pu être le titre de ce film, où elle se lance dans une carrière de sportive. Je crois que c'est du golf dans mon souvenir. Et c'est vraiment. Bah, je pense que Hepburn a été la première à avoir cette liberté de mouvement dans les films. Donc c'est vrai que oui, bah, sans doute que Lupino y a pensé. Avec aussi ce truc très. Enfin, quand on voit les films Spencer Tracy Hepburn, il y a une. Même aujourd'hui, on n'est pas arrivé à cette égalité dans le couple qu'ils ont eux dans leurs films, quoi.
Juste pour revenir sur le personnage de Gordon et sur la fin, on a quand même l'impression, et c'est là que moi j'ai trouvé, mais peut-être que on a l'impression que c'est lui qui vient la sauver. Il vient la sauver des journalistes. Et donc ça donne quand même l'impression que la réalisatrice nous dit que c'est lui le sauveur, quoi. Ça me semble pas très féministe comme. Enfin, je vois pas trop de pessimisme dans. Je la vois pas trop condamner ce chemin qu'elle choisit finalement.
Je sais pas s'il la sauve parce que c'est le moment où Florence est très très. On reprend quand même les rênes, c'est-à-dire. C'est juste qu'il la sort du cours, il la sort de. Voilà. Mais sinon, ça vient de son impulsion à elle, c'est-à-dire d'arrêter de faire du spectacle, d'arrêter de faire du. Voilà, de faire du sport business, c'est son impulsion à elle. Après, c'est vrai que le film est tellement travaillé par le motif du match entre les hommes, entre père et mère et tout ça, que entre le coach et Gordon, que du coup, je pense que là aussi, il y a un match qui se conclut. Mais j'ai pas l'impression d'une passivité, justement. Moi, je trouve que la fin, c'est le moment où elle se réveille, Florence, et après, c'est juste. Bah, leur histoire d'amour, quoi, c'est-à-dire qui reprend le dessus, mais je vois pas que c'est lui qui la sauve. C'est plus un geste protecteur, mais qui est pas déterminant, elle a déjà fait son choix.
Les réalisatrices des années 50, c'est vrai qu'elle est unique aux États-Unis, mais dans les mêmes années, commençait une réalisatrice au Japon, qui était une actrice aussi, qui s'appelle Kinuyo Tanaka, qui a fait aussi 6 films de long métrage, et 6 films qui parlent de problèmes de société et très en avance sur leur temps, et qui parlent de femmes qui sont des maîtresses, qui parlent de femmes qui ont des cancers du sein, etc., des problématiques qui n'étaient jamais abordées au Japon à cette époque-là. Donc c'est peut-être un petit parallèle.
Oui, c'est vrai. En plus, je pense qu'il y a aussi ce truc de. On ne pouvait pas tout de suite commencer comme réalisatrice. Il fallait infiltrer l'industrie comme actrice pour ensuite observer. Lupino a beaucoup parlé du fait qu'elle avait beaucoup observé Raoul Walsh, qui lui a appris beaucoup sur la mise en scène. Pardon, c'est la fin. Et du coup, je pense qu'il fallait d'abord l'infiltrer comme actrice pour ensuite. Après, il y a le cas, et moi j'insiste beaucoup sur l'idée que une Bette Davis, à la fin, elle faisait les films toute seule, quoi. Et tout le monde était terrorisé. Elle choisissait le metteur en scène, elle choisissait ses partenaires, elle choisissait ses mouvements de caméra. Et donc, il y a des statuts un peu ambigus comme ça pour des très grandes actrices, où pour moi, elles sont clairement des réalisatrices, quoi.